la bibliothèque royale. Après les avoir fait asseoir, le bibliothécaire montra d'un geste aux visiteurs la multitude de livres rangés sur les quatre murs depuis le plancher jusqu'à la corniche. Vous n'entendez pas le vacarme qu'ils font? J'en ai les oreilles rompues. Ils parlent tous à la fois et dans toutes les langues. Ils disputent de tout, Dieu, la nature, l'homme, le temps, le nombre et l'espace, le connaissable et l'inconnaissable, le bien, le mal. Ils examinent tout, contestent tout, affirment tout, nient tout. Ils raisonnent et déraisonnent. Il y en a de légers, de graves, de gais, de tristes, d'abondants et de concis. Plusieurs parlent pour ne rien dire, comptent les syllabes et assemblent les sons selon des lois dont ils ignorent eux-mêmes l'origine et l'esprit. Ce sont les plus contents d'eux. Il y en a une d'une espèce austère et morne, qui ne spécule que sur des objets dépouillés et de toute qualité sensible, et mis soigneusement à l'abri des contingences naturelles. Ils se débattent dans le vide et s'agitent dans les invisibles catégories du néant. Et ceux-là seuls sont d'acharnés disputeurs qui mettent à soutenir leurs entités, leurs symboles, une fureur sanguinaire. Ne m'arrête pas à ceux qui font des histoires sur leur temps ou les temps antérieurs, car personne ne les croit. En tout, ils sont 800 000 dans cette salle. Il n'y en a pas deux qui pensent tout à fait de même sur aucun sujet. Et ceux qui se répètent les uns les autres ne s'entendent pas entre eux. Ils le savent le plus souvent, ni ce qu'ils disent, ni ce que les autres ont dit. Monsieur d'ouïr ce tabac universel, je deviendrai fou, comme le devinrent tous ceux qui vécurent avant moi dans cette salle, aux voix sans nombre, à moins d'y entrer naturellement idiot, comme mon vénéré collègue, monsieur Froidefond, que vous voyez assis en face de moi, cataloguant avec une paisible ardeur. Il est né simple, et simple il est resté. Il était tout uni, et n'est point devenu divers. Car l'unité ne saurait produire la diversité. Et c'est là, je vous le rappelle en passant, messieurs, la première difficulté que nous rencontrons en recherchant l'origine des choses. La cause n'en pouvant être unique, il faut qu'elle soit double, triple, multiple, ce qu'on admet difficilement. Mais M. Froidevaux a l'esprit simple et l'âme pure. Il vit catalogalement. De tous les volumes qui garnissent ses murailles, il connaît le titre et le format, possédant ainsi la seule science exacte qu'on puisse acquérir dans une bibliothèque, et pour n'avoir jamais pénétré au-dedans d'un livre, il s'est gardé de la molle incertitude, de l'erreur aux sans-bouches, du doute affreux, de l'inquiétude horrible, monstre qu'enfante la lecture dans un cerveau fécond. Il est tranquille, il est pacifique, et il est heureux. « Il est heureux !» s'écrièrent ensemble les deux chercheurs de chemise. « Oui, il est heureux !» reprit M. Chaudesaigne. « Mais il ne le sait pas, et peut-être n'est-on heureux qu'à cette condition. » Hélas, dit Saint-Sylvain, ce n'est pas vivre que d'ignorer qu'on vit, ce n'est pas être heureux que d'ignorer qu'on est. Mais Quatrefeuille, qui se défiait du raisonnement et n'en croyait en toute chose que l'expérience, s'approcha de la table où Froidefond, dans un amas de bouquins recouverts de veaux, de basanes, de maroquins, de vélins, de parchemins, de peaux de truie, d'ais de bois sentant la poussière, le moisi, le rat et la souris cataloguaient. « Monsieur le bibliothécaire, lui dit-il, obligez-moi de me répondre, êtes-vous heureux ?»« Je ne connais pas d'ouvrage sous ce titre, » répondit le vieux catalogal. Quatrefeuille, levant les bras en signe de découragement, va reprendre sa place. « Réfléchissez, messieurs, dit Chaudesaigne, que l'antique Cybèle, portant M. Froidefond sur son sein fleuri, lui fait décrire un orbe immense autour du soleil, et que le soleil entraîne M. Froidefond avec la terre et tout son cortège d'astres à travers les abîmes de l'espace vers la constellation d'Hercule. Pourquoi les 800 000 volumes assemblés autour de nous, aucun ne peut nous l'apprendre? Nous ignorons cela et le reste, messieurs, nous ne savons rien. Les causes de notre ignorance sont nombreuses, mais je suis persuadé que la principale est dans l'imperfection du langage. Le vague des mots produit le trouble de nos idées. Si nous prenions plus de soin de définir les termes au moyen desquels nous raisonnons, nos idées seraient plus nettes et plus sûres. « Qu'est-ce que je vous disais ?» Quatrefeuille, s'écria Saint-Sylvain triomphant. Et se tournant vers le bibliothécaire, « Monsieur Chaudseil, ce que vous dites là me comble de joie, et je vois qu'en venant vers vous, nous nous sommes bien adressés. Nous venons vous demander la définition du bonheur, c'est pour le service de Sa Majesté. » Ben, vous répondrez de mon mieux. La définition d'un mot doit être étymologique et radicale. Qu'entend-on par bonheur, me demandez-vous? Ben, le bonheur ou heure bon, c'est le bon augure, c'est le favorable présage, tiré du vol et du chant des oiseaux, à l'opposé du malheur ou mauvaise heure, qui signifie un essaim infortuné des volailles, le mot l'indique. Mais, demanda Quatrefeuille, comment découvrir qu'un homme est heureux? Ben, à l'imperfection des poulets, répondit le bibliothécaire. Le terme l'implique. Heure vient d'augurium, qui est pour auigurium. Mais l'inspection des poulets sacrés ne se fait plus depuis les Romains, objecta le premier écuyer. Mais, demanda Saint-Sylvain, un homme heureux n'est-ce pas un homme à qui la chance est favorable? N'existe-t-il pas certains signes extérieurs et visibles de la bonne chance? La chance, répondit Chaudesaigle, c'est ce qui tombe bien ou mal, c'est le coup de dé. Si je vous ai bien compris, messieurs, vous cherchez un homme heureux, un homme chanceux, c'est-à-dire un homme pour qui les oiseaux n'aient que de bons présages et que les dés favorisent constamment. Ce rare mortel, cherchez-le parmi les hommes qui achèvent leur vie, et de préférence parmi ceux qui, déjà, sont étendus sur leur lit de mort, parmi ceux, enfin, qui n'auront plus à consulter les poulets sacrés ni à jeter les dés, car ceux-là seuls peuvent se féliciter d'une chance fidèle et d'un bonheur constant. Sophocle n'a-t-il pas dit en son édit proie, « Ne proclamons heureux nul homme avant sa mort ?» Ces conseils déplaisaient à Quatrefeuille, qui goûtait mal l'idée de courir après le bonheur derrière les saintes huiles. Saint-Sylvain ne se faisait pas non plus un plaisir d'aller tirer la chemise aux agonisants. Mais comme il avait de la philosophie et des curiosités, il demanda au bibliothécaire s'il connaissait un de ces beaux vieillards ayant jeté pour la dernière fois leur dé glorieusement pipé. Chaudesaigle ôta, chat la tête, se leva, alla à la fenêtre et tambourina sur les vitres. Il pleuvait, la place d'armes était déserte. Au fond se dressait un palais magnifique dont l'attique était surmontée de trophées d'armes et qui portait à son fronton un bel lonne casqué d'une hydre cuirassée d'écailles et brandissant un glaive romain. « Allez dans ce palais, » dit-il enfin. « Quoi ?» fit Saint-Sylvain surpris. « C'est le maréchal de Volmar ?» Mais sans doute, quel mortel plus fortuné sous le ciel que le vainqueur d'Elbrus et de Basquire. Volmar est un des plus grands hommes de guerre qui ait jamais existé et de tous le plus constamment heureux. « Mais le monde entier le sait, » dit Quatrefeuille. « Et il ne l'oubliera jamais, » reprit le bibliothécaire. Le maréchal Pilon, duc de Volmar, venu dans un temps où les conflagrations des peuples n'embrasaient pas toutes la surface de la terre, à la fois. Si corriger cette ingratitude du sort en se jetant avec son cœur et son génie sur tous les points du globe où s'allumait une guerre. Dès l'âge de 12 ans, il servit en Turquie et fit la campagne du Kurdistan. Depuis lors, il a porté ses armes victorieuses dans toutes les parties du monde connues. Il a franchi 4 fois le Rhin avec une si insolente facilité que le vieux fleuve couronné de roseaux, séparateur des peuples, en parut humilié et bafoué. Il a, plus habilement encore que le maréchal de Saxe, défendu la ligne de la Lys. Il a franchi les Pyrénées, forcé l'entrée du Tage, ouvert les portes caucasiennes et remonté le bord Isten. Il a, tour à tour, défendu et combattu toutes les nations d'Europe et 3 fois sauvé sa patrie. Michaud de Seigle fit apporter les campagnes du duc de Weimar. 3 garçons de bibliothèque pliaient sous le fait. Les atlas ouverts s'étendaient sur les tables à perte de vue. Voici, messieurs, la campagne de Styrie, la campagne du Palatinat, la campagne de Karamanie, celle du Caucase et celle de la Vistule. Les positions et la marche des armées sont indiquées exactement sur ces cartes, par des losanges accompagnés de jolis petits drapeaux, et l'ordre des batailles est parfait. Cet ordre se détermine généralement après l'action, et c'est le génie des grands capitaines d'ériger en système à leur gloire les caprices du hasard. Mais le duc de Weimar a toujours tout prévu. Jetez les yeux sur ce plan au 10 000e de la fameuse bataille de Basquir, remporté sur les Turcs par Weimar. Il y déploya le plus prodigieux génie tactique. L'action était engagée depuis 5 heures du matin à 4 heures du soir. Les troupes de Weimar, accablées de fatigue et leurs munitions épuisées, se repliaient en désordre. L'intrépide maréchal, seul à la tête du pont jeté sur la Luta, un pistolet à chaque main, brûlait la cervelle des fuyards. Il opérait sa retraite quand il apprit que les ennemis, en pleine déroute, se précipitaient éperdument dans le Danube. Aussitôt, il fit volte-face, se jeta à leur poursuite et acheva leur destruction. Cette victoire lui valut 500 000 francs de revenus et lui ouvrit les portes de l'Institut. Messieurs, pensez-vous trouver un homme plus heureux que le vainqueur d'Elbouz et de Basquir ? Il a fait, avec un bonheur constant, 14 campagnes, gagné 60 batailles, rangé et 3 fois sauvé d'une ruine totale sa patrie reconnaissante. Chargé de gloire et d'honneur, il prolonge au-delà du terme ordinaire, dans la richesse et la paix, son auguste vieillesse. Il est vrai qu'il est heureux, dit Quatrefeuille. Qu'en pensez-vous, Saint-Sylvain ? « Bon, allons lui demander audience, » répondit le secrétaire des commandements. Introduit dans le palais, ils traversèrent le vestibule où se dressait la statue équestre du maréchal. Sur le socle étaient inscrites ces fières paroles. « Je lègue à la reconnaissance de la patrie et à l'admiration de l'univers mes 2 filles, Elbouz et Basquir. » L'escalier d'honneur élevait la double courbe de ses degrés de marbre entre des murs décorés de panoplies et de drapeaux, et son vaste palier conduisait à une porte dont les battements s'ornaient de trophées d'armes et de grenades enflammées, et que surmontaient les 3 couronnes d'or décernées par le roi, le parlement et la nation au duc de Weimar, sauveur de sa patrie. Saint-Sylvain et Quatrefeuille s'arrêtèrent, glacés de respect, devant cette porte close. À la pensée du héros dont elle les séparait, l'émotion les tenait cloués sur le seuil, et ils n'osaient affronter tant de gloire. Saint-Sylvain se rappelait la médaille frappée en commémoration de la bataille d'Elbouz, et qui présentait à l'avers le maréchal posant une couronne sur le front d'une victoire ailée, avec cet exergue magnifique Victoria caesarem et Napoleonem coronavit. Maiorem Walmarus coronat victoriam. Et il murmura, cet homme est grand de 100 coudées. Quatre feuilles pressaient les deux mains à son cœur qui battait à se rompre. Ils n'avaient pas encore repris leur sens quand ils entendirent des cris aigus qui semblaient sortir du fond des appartements et se rapprochaient peu à peu. C'étaient des glapissements de femmes mêlés à des bruits de coups, suivis de faibles gémissements. Soudain, les battants brusquement écartés, un très petit vieillard, lancé à coups de pied par une robuste servante, s'abattit comme un mannequin sur les marches, dégringola l'escalier, la tête la première, et tomba cassé, disloqué, brisé dans le vestibule devant les valets solennels. C'était le duc de Wolmar. Ils le relevèrent. La servante, échevelée et débraillée, hurlait d'en haut. « Laissez donc, on touche pas à ça qu'avec le balai !» Et brandissant une bouteille, « Il voulait me prendre mon eau de vie, de quel droit ? Eh, va donc, vieux décombre ! C'est pas moi qui suis allé te chercher, bien sûr, vieille charogne !» Quatre feuilles et Saint-Sylvain s'enfuirent à grands pas du palais. Quand ils furent sur la place d'armes, Saint-Sylvain fit cette remarque qu'à sa dernière partie de dés, le héros n'avait pas été heureux. « Quatre feuilles, ajouta-t-il, je vois que je me suis trompé. Je voulais procéder avec une méthode exacte et rigoureuse. J'avais tort. La science nous égare. Revenons au sens commun. On ne se gouverne bien que par l'empirisme le plus grossier. Cherchons le bonheur sans vouloir le définir. » Quatre feuilles se répandit longuement en récriminations et en invectives contre le bibliothécaire qu'il traitait de mauvais plaisant. Ce qui le fâchait le plus, c'était de voir sa foi dévastée, le culte qu'il vouait au héros national avili, souillé dans son âme. Il en souffrait. Sa douleur était généreuse, et sans doute les douleurs généreuses contiennent en soi leur adoucissement, et pour ainsi dire leur récompense, elles se supportent mieux, plus aisément, d'un plus facile courage, que les douleurs égoïstes et intéressées. Il serait injuste de vouloir qu'il en fût autrement. Aussi, quatre feuilles eut bientôt l'âme assez libre et l'esprit assez clair pour s'apercevoir que la pluie tombant sur son chapeau de soie n'altérait le lustre, et il soupira. Pof! Encore un chapeau de fichu. Il avait été militaire et avait jadis servi son roi comme lieutenant de dragon. C'est pourquoi il eut une idée. Il alla acheter chez le libraire de l'état-major, sur la place d'armes, à l'angle de la rue des Grandes Écuries, une carte du royaume et un plan de la capitale. On ne doit jamais se mettre en campagne sans carte, dit-il. « Mais le diable, c'est de les lire. Mais voici notre ville avec ses environs. Mais par où commencerons-nous ? Par le nord ou par le sud ? Par l'est ou par l'ouest ? Ben, on a remarqué que les villes s'accroissaient toutes par l'ouest. Peut-être y a-t-il là un indice qu'il ne faut pas négliger. Il est possible que les habitants des quartiers occidentaux, à l'abri du vent malin de l'est, jouissent d'une meilleure santé, à l'humeur plus égale, soient plus heureux. Ben, ou plutôt, commençons par les coteaux charmants qui s'élèvent au bord de la rivière, à 10 lieues au sud de la ville. C'est là qu'habitent en cette saison les plus opulentes familles du pays. Et, quoi qu'on dise, c'est parmi les heureux qu'il faut chercher un heureux. Quatre feuilles, répondit le secrétaire des commandements. Je ne suis pas un ennemi de la société, je ne suis pas un adversaire du bonheur public. Je vous parlerai des riches en honnête homme et en bon citoyen. Les riches sont dignes de vénération et d'amour. Ils entretiennent l'État en s'enrichissant encore, et bienfaisant même sans le vouloir. Ils nourrissent une multitude de personnes qui travaillent à la conservation et à l'accroissement de leurs biens. Oh, que la richesse privée est belle, digne, excellente! Comme elle doit être ménagée, allégée, privilégiée par le sage législateur, et combien elle est inique, perfide, déloyale, contraire aux droits les plus sacrés, aux intérêts les plus respectables, et funeste aux finances publiques de grever l'opulence. C'est un devoir social de croire à la bonté des riches. Il est doux aussi de croire à leur bonheur. Allons, quatre feuilles. Chapitre 7. Les rapports de la richesse avec le bonheur. Résolu de s'adresser d'abord aux meilleurs, aux plus riches, Jacques Felgine Cobure, qui possédait des montagnes d'or, des mines de diamants, des mers de pétrole, il longèrent longtemps les murs de son parc, qui renfermait les prairies immenses, des forêts, des fermes, des villages, et à chaque porte du domaine où il se présentait, on les renvoyait à une autre. Là d'aller et de venir et de virer sans cesse, ils avisèrent un cantonnier qui, sur la route, devant une grille armoriée, cassait les pierres et lui demandèrent si c'était par cette entrée qu'on passait pour se rendre chez M. Jacques Felgine Cobure qu'il désirait voir. L'homme redressa péniblement la maigre échine et tourna vers eux son visage creux, masqué de lunettes grillées. « Mais Monsieur Jacques Felgine Cobure, c'est moi, » dit-il. Et les voyant surpris, « Mais je casse les pierres, c'est ma seule distraction. » Puis, se courbant de nouveau, il frappa de son marteau un caillou qui se brisa avec un bruit sec. Tandis qu'il s'éloignait, « Il est trop riche, » dit Saint-Sylvain, « sa fortune l'écrase. » C'est un malheureux. Quatre feuilles pensaient se rendre ensuite chez le rival de Jacques Felgine Cobure, chez le roi du fer, Joseph Machero, dont le château tout neuf dressait horriblement sur la colline voisine, ses tours crénelées et ses murs percés de mâchicoulis, hérissés d'échauguettes. Oh, Saint-Sylvain l'en dissuada. Vous avez vu son portrait? Oh, il a l'air minable. On sait par les journaux qu'il est piétiste, vit comme un pauvre, évangélise les petits garçons et chante des psaumes à l'église. Allons plutôt chez le prince de Lausanne. Ah, oh, celui-là est un véritable aristocratique qui sait jouir de sa fortune. Il fuit le tracas des affaires et ne va pas à la cour. Il est amateur de jardin et a la plus belle galerie de tableaux du royaume. Ils s'annoncèrent. Le prince de Lusace les reçut dans son cabinet des Antiques, où l'on voyait la meilleure copie grecque qu'on connaisse de l'Aphrodite de Cnide, œuvre d'un ciseau vraiment praxitélien et pleine de vénusté. La déesse semblait humide encore de l'onde marine. Un médaillé en bois de rose qui avait appartenu à Madame de Pompadour contenait les plus belles pièces d'or et d'argent de Grèce et de Sicile. Le prince, fin connaisseur, rédigeait lui-même le catalogue de ses médailles. Sa loupe traînait encore sur la vitrine des pierres gravées, jaspe, onyx, sardoine, chalcédoine, renfermant dans la grandeur de l'ongle des figures d'un style large, des groupes composés avec une ampleur magnifique. Il prit d'une main amoureuse sur sa table un petit faune de bronze, pour en faire admirer à ses visiteurs le galbe et la patine, et son langage était digne du chef-d'œuvre qu'il expliquait. J'attends, ajouta-t-il, un envoi d'argenterie antique, des tasses et des coupes qu'on dit les plus belles que celles d'Hildesheim et de Boscoreale. Je suis impatient de les voir. Monsieur de Caylus ne connaissait pas de volupté plus grande que de déballer des caisses, c'est mon sentiment. Saint-Sylvain sourit. Bon, dis pourtant, mon cher prince, que vous êtes expert en toutes les voluptés. Oh, vous me flattez, monsieur de Saint-Sylvain, mais je crois que l'art du plaisir est le premier de tous, et que les autres ne brillent que par le concours qu'ils prêtent à celui-là. Il conduisit ses hôtes dans sa galerie de tableaux, où se concertaient les tons argentés de Véronèse, l'ambre du Titien, les rougeurs de Rubens, les rousseurs de Rembrandt, le gris et les roses de Velasquez, où toutes les palettes chantantes formaient une harmonie glorieuse. Un violon dormait, oublié sur un fauteuil, devant le portrait d'une dame brune à bandeau plat, le teint olivâtre, ses grands yeux marrons lui mangeant les joues, et une inconnue, dont Hongre avait caressé les formes d'une main amoureuse et sûre. « Je vais vous avouer ma manie, » dit le prince de Luzance. « Parfois, quand je suis seul, je joue devant ces tableaux et j'ai l'illusion de traduire par des sons l'harmonie des couleurs et des lignes. Devant ce portrait, j'essaye de rendre la ferme caresse du dessin et, découragé, je laisse mon violon. » Une fenêtre s'ouvrait vers le parc. Le prince et ses hôtes s'accoudèrent au balcon. « Quelle belle vue !» s'écrièrent Quatrefeuilles et Saint-Sylvain. Des terrasses chargées de statues, d'orangers, de fleurs, conduisaient par de lents et faciles escaliers à la pelouse bordée de charmilles et au bassin d'où l'eau jaillissait en gerbes blanches des conques des tritons et des urnes des nymphes. À droite et à gauche, une mer de verdure étendait ses houles apaisées, jusqu'à la rivière, lointaine, dont on suivait le fil argenté entre les peupliers, sous les collines enveloppées de brumes roses. Naguère souriant, le prince attachait un regard soucieux sur un point de cette vaste et belle étendue. Ben, « Ce tuyau !» murmura-t-il d'une voix altérée en désignant du doigt une cheminée d'usine qui fumait à plus d'une demi-lieue du parc. « Cette cheminée, on ne la voit guère, » dit Quatrefeuilles. Ben, « Je ne vois qu'elle, » répondit le prince. « Elle me gâte toute cette vue, elle me gâte la nature entière, elle me gâte la vie. Le mal est sans remède. » Elle appartient à une compagnie qui ne veut céder son usine à aucun prix. J'ai essayé de tous les moyens pour la masquer. Je n'ai pas pu. J'en suis malade. Et quittant la fenêtre, il s'abîma dans un fauteuil. Nous devions le prévoir, dit Quatrefeuilles en montant en voiture. C'est indélicat. Bon, il est malheureux. Avant de poursuivre leurs recherches, ils s'assirent un moment dans le jardinet d'une guinguette située à la pointe de la montagne et d'où l'on découvrait la belle vallée, le fleuve clair et sinueux et ses îles ovales. Au mépris de deux épreuves désespérantes, ils espéraient découvrir un milliardaire heureux. Il leur en restait une douzaine à voir dans la contrée et entre autres M. Bloch, M. Potiquet, le baron Nichol, le plus grand industriel du royaume, et le marquis de Grand Osme, le plus riche peut-être de tous, et d'une famille illustre aussi chargée de gloire que de bien. Près d'eux, un homme long, maigre, buvait une tasse de lait, plié en deux, mou comme un traversin. Ses gros yeux pâles lui tombaient au milieu des joues. Son nez lui pendait sur la bouche. Il semblait abîmé de douleur et regardait avec affliction les pieds de Quatrefeuilles. Après une contemplation de 20 minutes, il se leva, lugubre et résolu, s'approcha du premier écuyer et s'excusant de l'importunité. « Monsieur, lui dit-il, permettez-moi de vous faire une question qui est pour moi d'une extrême importance. Combien payez-vous vos bottines ?» Malgré l'étrangeté de la demande, répondit Quatrefeuilles, « Oh, je ne vois pas d'inconvénient à y répondre. J'ai payé cette paire 65 francs. » Longtemps, l'inconnu examina alternativement son pied et celui de son interlocuteur, et compara les deux chaussures avec une attention minutieuse. Puis, pâle et d'une voix émue, « Vous dites que vous payez ces bottines-là 65 francs. En êtes-vous bien sûr ?»« Ah, certainement. Monsieur, prenez bien garde à ce que vous dites. » « Ah, ça, grommela Quatrefeuille, qui commençait à s'impatienter. Vous êtes un plaisant bottier, monsieur. »«
Je ne suis pas bottier, » répondit l'étranger, plein d'une humble douceur. « Je suis le marquis de Grand-Osme. »
Quatrefeuille salua. « Monsieur, » poursuivit le marquis, « j'en avais le pressentiment. Hélas, je suis encore volé. » Vous payez vos bottines 65 francs, mais je paye les miennes toutes semblables aux vôtres 90. C'est pas le prix que je considère, le prix n'est rien pour moi, mais je ne puis supporter d'être volé. Je ne vois, je ne respire autour de moi qu'improbité, fraude, larcin, mensonge, et je prends en horreur mes richesses qui corrompent tous les hommes qui m'approchent, les domestiques, les intendants, les fournisseurs, les voisins, les amis, femmes, les enfants, me les rendent odieux et méprisables. Ma position est atroce, je ne suis jamais certain de ne pas voir devant moi un malhonnête homme. Et d'appartenir moi-même à l'espèce humaine, oh, je me sens mourir de dégoût et de honte. Et le marquis s'en fut s'abattre sur sa tasse de lait en soupirant. « 65 francs ! 65 francs !» À ce moment, des plaintes, des gémissements éclatèrent sur la route, et les deux envoyés du roi virent un vieillard qui se lamentait, suivi de deux grands laquais égalonnés. Ils s'émurent à cette vue. Mais le cafetier fort indifférent, « Oh, c'est rien !» leur dit-il. « C'est le baron d'Ichol qui est si riche. Il est devenu fou, il se croit ruiné et se lamente nuit et jour. » « Le baron d'Ichol ?» s'écria Saint-Sylvain. « Encore un à qui vous vouliez demander sa chemise, Quatrefeuille ?» Sur cette dernière rencontre, ils renoncèrent à chercher plus longtemps chez les plus riches du royaume la chemise salutaire. Comme ils étaient mécontents de leur journée et craignaient d'être mal reçus au château, ils s'en prirent l'un à l'autre de leur mécontente. « Mais quelle idée aussi aviez-vous, Quatrefeuille, d'aller chez ces gens-là pour faire autre chose que des observations tératologiques ?» Meurs, idées, sensations, rien n'est sain, rien n'est normal en eux. Ce sont des monstres. Mais quoi ? Ne m'avez-vous pas dit, Saint-Sylvain, que la richesse est une vertu, et qu'il est juste de croire à la bonté des riches et nous de croire à leur bonheur ? Mais prenez-y bien garde, il y a richesse et richesse, quand la noblesse est pauvre et la roture riche. C'est la subversion de l'État et la fin de tout. Quatrefeuille, je suis fâché de vous le dire, vous n'avez aucune idée de la constitution des États modernes. Vous ne comprenez pas l'époque où vous vivez. Ben, cela ne fait rien. Si maintenant nous tâtions de la médiocrité dorée, qu'en pensez-vous ? Je crois que nous ferions sagement d'assister demain aux réceptions des dames de la ville, bourgeoises et titrées. Nous y pourrons observer toutes espèces de gens, et, si vous m'en croyez, nous visiterons d'abord les bourgeoises de conditions modestes. Chapitre 8. Les salons de la capitale. Ainsi firent-ils. Ils se présentèrent d'abord chez Madame Soupe, femme d'un fabricant de pâtes alimentaires qui avait une usine dans le Nord. Ils y trouvèrent M. et Mme Soupe, malheureux de n'être pas reçus chez Mme Esterlin, femme du maître de forge, député au Parlement. Alors ils allèrent chez Mme Esterlin, et l'y trouvèrent désolée, ainsi que M. Esterlin, de n'être pas reçus chez Mme du Colombier, femme du père du royaume, ancien ministre de la Justice. Ils allèrent chez Mme de Colombier, et y trouvèrent le père et la pairesse, enragé de n'être pas dans l'intimité de la reine. Les visiteurs qu'ils rencontrèrent dans ces diverses maisons n'étaient pas moins malheureux, désolés, enragés. La maladie, les peines de cœur, les soucis d'argent les rongeaient. Ceux qui possédaient, craignant de perdre, étaient plus infortunés que ceux qui ne possédaient pas. Les obscurs voulaient paraître, les illustres paraître davantage. Le travail accablait la plupart. Et ceux qui n'avaient rien à faire souffraient d'un ennui plus cruel que le travail. Plusieurs pâtissaient du mal d'autrui, souffraient les souffrances d'une femme, d'un enfant aimé. Beaucoup dépérissaient d'une maladie qu'ils n'avaient pas, mais qu'ils croyaient avoir, ou dont ils craignaient les atteindre. Une épidémie de choléra venait de sévir dans la capitale, et l'on citait un financier qui, de peur d'être atteint par la contagion et ne connaissant pas de retraite assez sûre, se suicida. Le pis, disait Quatrefeuille, c'est que tous ces gens-là, non contents des maux réels qui pleuvent sur eux de rue comme grêle, se plongent dans une mare de maux imaginaires. Il n'y a pas de maux imaginaires, répondait Saint-Sylvain. Tous les maux sont réels dès qu'on les éprouve, et le rêve de la douleur est une douleur véritable. C'est égal, répliquait Quatrefeuille. Quand je pisse des pierres grasses comme un œuf de canard, je voudrais bien que ce fût un rêve. Cette fois encore, Saint-Sylvain observa que bien souvent, les hommes s'affligent pour des raisons opposées et contraires. Il causa successivement dans le salon de Madame du Colombier avec deux hommes de haute intelligence, éclairés, cultivés, qui par les tours et détours qu'à leur insu ils imprimaient à leurs pensées, lui décelaient le mal moral dont ils étaient profondément atteints. C'est de l'état public que tous deux tiraient la cause de leurs soucis, mais ils la tiraient à rebours. Monsieur Brome vivait dans la peur perpétuelle d'un changement, dans la stabilité présente au milieu de la prospérité et de la paix dont jouissait le pays. Il craignait des troubles et redoutait un bouleversement total. Ses mains n'ouvraient qu'en tremblant les journaux. Il attendait tous les matins à y trouver l'annonce de tumultes et d'émeutes. Sous cette impression, il transformait les faits les plus insignifiants et les plus vulgaires incidents en préludes de révolution, en prodromes de cataclysme. Se croyant toujours à la veille d'une catastrophe universelle, il vivait dans un perpétuel effroi. Un mal tout contraire, plus étrange et plus rare, ravageait M. Sandric. Le calme l'ennuyait. L'ordre public l'impatientait, la paix lui était odieuse, la sublime monotonie des lois humaines et divines l'assommait. Il appelait en secret des changements, et feignant de les craindre, soupirait après les catastrophes. Cet homme bon, doux, affable, humain, ne concevait d'autres amusements que la subversion violente de son pays, du globe, de l'univers, épiant jusque dans les astres les collisions, les conflagrations. Déçu, abattu, triste, morose, quand le style des papiers publics et l'aspect des rues lui révélaient l'inaltérable quiétude de la nation, il en souffrait d'autant plus qu'ayant la connaissance des hommes et l'expérience des affaires, il savait combien l'esprit de conservation, de tradition, d'imitation et d'obéissance est fort dans les peuples et comme d'un train égal et lent vers la vie sociale. Saint-Sylvain observa à la réception de Madame du Colombier une autre contrariété plus vaste et de plus de conséquences. Dans un coin du petit salon, M. de la Galissonnière, président du tribunal civil, s'entretenait paisiblement et à voix basse avec M. Larive Dumont, administrateur du jardin zoologique. Je le confierai à vous, mon ami, disait M. de la Galissonnière. L'idée de la mort me tue. Oh, j'y pense sans cesse, j'en meurs sans cesse. La mort m'épouvante, oh non, par elle-même, car elle n'est rien, mais pour ce qui la suit, la vie future. Moi, j'y crois, j'ai la foi, la certitude de mon immortalité. Raison, instinct, science, révélation, tout me démontre l'existence d'une âme impérissable. Tout me prouve la nature, l'origine et les fins de l'homme telles que l'Église nous les enseigne. Je suis chrétien, je crois aux peines éternelles, et l'image terrible de ces peines me poursuit sans trêve. L'enfer me fait peur, et cette peur, plus forte qu'aucun autre sentiment, détruit en moi l'espérance et toutes les vertus nécessaires au salut, me jette dans le désespoir et m'expose à cette réprobation que je redoute. La peur de la damnation me damne. L'épouvante de l'enfer m'y précipite, et, vivant encore, j'éprouve par avance les tourments éternels. Il n'y a pas de supplice comparable à celui que j'endure et qui se fait plus cruellement sentir d'année en année, de jour en jour, d'heure en heure, puisque chaque jour, chaque minute me rapproche de ce qui me terrifie. Ma vie est une agonie pleine d'affres et d'épouvantement. » En prononçant ces paroles, le magistrat battait l'air de ses mains comme pour écarter les flammes inextinguibles dont il se sentait environné. « Je vous envie, mon bien cher ami, soupira M. Larive-Dumont. Vous êtes heureux en comparaison de moi. C'est aussi l'idée de la mort qui me déchire, mais que cette idée diffère de la vôtre et combien elle la dépasse en horreur. Mes études, mes observations, une pratique constante de l'anatomie comparée et des recherches approfondies sur la constitution de la matière ne m'ont que trop persuadé que les mots âme, esprit, mortalité, immatérialité ne représentent que les phénomènes physiques ou la négation de ces phénomènes, et que pour nous, le terme de la vie est aussi le terme de la conscience, enfin, que la mort consomme notre complet anéantissement. Ce qui suit la vie, il n'y a pas de mot pour l'exprimer, car le terme de néant que nous y employons n'est qu'un signe de dénégation devant la nature entière. Le néant, c'est un rien infini, et ce rien nous enveloppe. Nous en venons, nous y allons. Nous sommes entre deux néants, comme une coquille sur la mer. Le néant, c'est l'impossible et le certain. Cela ne se conçoit pas, et cela est. Le malheur des hommes, voyez-vous, leur malheur et leur crime, c'est d'avoir découvert ces choses. Les autres animaux ne les savent pas. Nous devions les ignorer à jamais, être et cesser d'être. L'effroi de cette idée me fait dresser les cheveux sur la tête. Elle ne me quitte pas. Ce qui ne sera pas me gâte et me corrompt, mais ce qui est le néant m'abîme par avance. Atroce absurdité, je m'y sens, je m'y vois. Mais je suis plus à plaindre que vous, répliqua M. de la Galissonnière. Chaque fois que vous prononcez ce mot, ce perfide et délicieux mot de néant, sa douceur caresse mon âme et me flatte comme l'oreiller du malade d'une promesse de sommeil et de repos. Mais Larive-Dumont, mes souffrances sont plus intolérables que les vôtres, puisque le vulgaire supporte l'idée d'un enfer éternel et qu'il me faut une force d'âme peu commune pour être athée. Une éducation religieuse, une pensée mystique vous ont donné la peur et la haine de la vie humaine. Vous n'êtes pas seulement chrétien et catholique. Vous êtes janséniste et vous portez au flanc l'abîme que côtoyait Pascal. Moi, j'aime la vie de cette terre, la vie telle qu'elle est, la chienne de vie. Je l'aime brutale, vile et grossière. Je l'aime sordide, malpropre, gâté, je l'aime stupide, imbécile et cruel. Je l'aime dans son obscénité, dans son ignominie, dans son infamie, avec ses souillures, ses laideurs et ses puanteurs, ses corruptions et ses infections. Sentant qu'elle m'échappe et me fuit, je tremble comme un lâche et deviens fou de désespoir. Les dimanches, les jours de fête, je cours à travers les quartiers populeux, je me mêle à la foule qui roule par les rues, je me plonge dans les groupes d'hommes, de femmes, d'enfants, autour des chanteurs d'ambulants ou devant les baraques des forains. Je me frotte aux jupes sales, aux camisoles grasses, j'aspire les odeurs fortes et chaudes de la sueur, des cheveux, des haleines. Il me semble, dans ce grouillement de vie, être plus loin de la mort. J'entends une voix qui me dit « La peur que je te donne, seule, je t'en guérirai. La fatigue dont mes menaces t'accablent, seule, je t'en reposerai. » Mais je ne veux pas, je ne veux pas. Hélas, soupira le magistrat, si nous ne guérissons pas en cette vie les maladies qui ruinent nos âmes, la mort ne nous apportera pas le repos. Mais ce qui m'enrage, reprit le savant, c'est que quand nous serons tous deux morts, je n'aurai pas même la satisfaction de vous dire « Vous voyez la galissonnière, je ne me trompais pas, il n'y a rien. Je ne pourrais pas me flatter d'avoir eu raison. Et vous, vous ne serez jamais détrompé. De quel prix se paie la pensée? Vous êtes malheureux, mon ami, parce que votre pensée est plus vaste et plus forte que celle des animaux et de la plupart des hommes. Et je suis plus malheureux que vous, parce que j'ai plus de génie. » Quatre Feuilles, qui avait attrapé des bribes de ce dialogue, n'en fut pas très frappé. « Oh, ce sont là des peines d'esprit, dit-il. Oh, elles peuvent être cruelles, mais elles sont peu communes. Je m'alarme davantage des peines plus vulgaires, souffrances et difformités du corps, mal d'amour et défaut d'argent, qui rendent notre recherche si difficile. » En outre, lui fit observer Saint-Sylvain, ces deux messieurs forcent trop violemment leur doctrine à les rendre misérables. Si la galissonnière consultait un bon père jésuite, il serait bientôt rassuré, et la rive du mont devrait savoir qu'on peut être athée avec sérénité comme Lucrèce, et même avec délices comme André Chénier. Qu'il se répète le vers d'Homère, Patrocle est mort, qui valut mieux que moi, et consent de meilleure grâce à rejoindre un jour ou l'autre ses maîtres les philosophes de l'Antiquité, les humanistes de la Renaissance, les savants modernes, et tant d'autres qui valaient mieux que lui. Et meurent Paris et Hélène, dit François Villon. Nous sommes tous mortels, comme dit Cicéron. Nous mourrons tous, dit cette femme, dont l'écriture a loué la prudence au second livre des rois.